pour écouter M. Lordon pour l'apparition de son ouvrage Vivre sans, donc aux éditions La Fabrique. Je vais tout de suite commencer par poser quelques questions et après on échangera avec le publicite pour y poser vos questions. Alors, M. Lordon, qu'est-ce qui, dans la conjoncture, vous a amené à écrire ce livre? Pourquoi avoir mis ensemble de la philosophie contemporaine avec des questions d'actualité politique? Concrètement, pourquoi avez-vous choisi de discuter avec les secteurs autonomes du mouvement social alors qu'on vous imagine peut-être à tort plus en dialogue avec une gauche réformiste? Qu'est-ce qui fait dès lors l'unité de votre livre, qualifié d'un genre hybride dans l'avant-propos?
Bon, vous voyez, hein, l'effet que ça a produit. Non, parce que je vous raconte les secrets de la préparation. Juliette Moël m'appelle il y a quelque temps. Je lui demande de m'envoyer les questions qu'elle voudrait me poser parce que c'est bien quand même que je puisse réfléchir un peu avant. Et elle commence sa liste, etc. Et puis il y a le passage là sur le dialogue avec la gauche réformiste. Alors je lui dis, évidemment, mais vous ne pouvez pas imaginer mettre davantage à côté de la plaque. Enfin, c'est guère pensable. Et alors, comme elle est absolument accommodante, elle m'a dit, bon, on l'enlève. Dit, non, au contraire, on la laisse, c'est parfait, parce que, bon, je ne sais pas, la réaction spontanée, là, me porte à croire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui considèrent ça. Mais, parce que vous savez, moi, la gauche réformiste, je passe mon temps à longueur d'écrit à lui déverser sur le rable mes sarcasmes ou ma franche détestation. Alors, je me suis dit, ah, mais peut-être dans une gauche réformiste, il y a France Insoumise. Alors, là, je dois faire des coupables, hein. Lors des élections de 2017, j'avais manifesté sous l'hypothèse qu'on accordait quelque sens au jeu institutionnel électoral, sous l'hypothèse, n'est-ce pas, j'avais accordé de l'intérêt à l'hypothèse France Insoumise en disant, et plus exactement, en disant à mon avis ce que seraient les conditions de possibilité d'un non-échec immédiat ou, enfin, je sais pas, d'une trajectoire gouvernementale d'un hypothétique pouvoir France Insoumise arrivant dans les palais. Bon, c'était plutôt ça, hein, la nature de l'exercice. Et il y a une autre fois, alors ça c'est pour à l'usage des fact-checkers, il y a une autre fois où, et je crois que c'est la seule fois où j'étais en torse à ce principe que je m'impose de ne jamais avoir de contact avec les organisations de pouvoir, qu'elles soient partisanes, syndicales, ou de quelque nature qu'elles soient, pour des raisons dans le détail desquelles je ne rentre pas, mais une fois, j'avais répondu, alors que je refusais méthodiquement jusqu'à présent, j'ai répondu à une invitation d'un truc qui s'appelait le sommet international pour le plan B, il s'agissait d'euros, qui était manifestement organisé par Mélenchon et ses troupes, et parce que je m'étais dit, ça devait être, je ne sais plus si c'était en 2016 peut-être, c'est-à-dire après la raclée de Tsipras. Et cette raclée avait fait bouger les esprits quand même. Et donc je me disais, là, il y a peut-être une conjoncture favorable. Cette fois-ci, j'y vais. Si ça trouve, la porte est entrouverte, en donnant un bon coup d'épaule dedans, elle va céder. Erreur totale. Donc je ne le referai plus, hein, et puis c'est tout. Alors voilà pour la gauche réformiste. Alors, quant au secteur autonome, mais écoutez, il faut que je raconte tout simplement l'histoire de ce livre. À l'origine, c'est une idée d'Éric Adam, éditeur de La Fabrique, qui dit « Ah, j'aimerais bien que le comité invisible et toi, vous ayez un dialogue. » Vous avez, c'est clair, un certain nombre de choses en commun. Vous avez, ça n'est pas moins clair, des lieux de différents outrissons. Ça serait bien que ce débat-là ait lieu. Et ma foi, c'est une excellente idée. Et puis, pour des raisons qui sont tout à fait contingentes, dans matériel, d'occupation, d'emploi du temps qui divergent, de choses comme ça, ce dialogue dont on avait commencé à explorer les premières étapes n'a pas pu se faire. Et c'est Éric Azan lui-même qui s'est proposé de reprendre la suite, évidemment non pas pour incarner le comité invisible à la place du comité invisible, mais pour me faire le répondant en sachant que s'il m'aime bien, ses adhérences intellectuelles et politiques à lui vont plutôt de l'autre côté. Et ma foi, c'était une excellente idée. Et puis là aussi, les choses ont dérapé, Eric n'a plus pu être disponible, donc le projet a pris encore du retard. Moyennant quoi, ce sont Jean Morizot, qui travaille à Fabrique, et puis surtout Félix Boggio, qui m'ont donné la réplique. Voilà. Donc, et ce livre s'intitule Conversation avec Félix Boggio et l'ANGP, parce que c'est essentiellement avec lui que le dialogue a eu lieu, même s'il a eu lieu sous l'œil vigilant de Jean Morizot, parce qu'il sait très bien que Félix et moi, livrés à nous-mêmes, on va se monter le bourrichon métaphysique, ça va finir dans la quatrième dimension, il fallait nous ramener sur Terre de temps en temps. Donc il a été d'une vigilance attentive. Bon. Alors, maintenant, il y a cette question de l'hybridité, n'est-ce pas, de ce livre. Effectivement, l'avant-propos déclare, oui, c'est un livre hybride. Alors, il ne faut pas se tromper parce que il y a deux hybridités, si vous voulez. Il y a une hybridité, formelle, et c'est celle-là que l'avant-propos a en tête. C'est une hybridité qui tient au genre vraiment tout à fait bâtard et atopique et indéterminé de l'exercice. On ne peut pas dire à proprement parler qu'il s'agisse d'un entretien. Vous comprenez, quand les questions font une page et demie et les réponses en font 20, on perd un peu le dynamisme de la voix vive, quoi. Il faut dire les choses. Et en fait, après une phase de déblayage intensif, on l'a procédé de manière épistolaire et ça a donné de fameux tunnels. Bon. Et en même temps, je ne creuse pas tout seul. Je creuse avec Félix, qui était toujours présent à mon esprit, qui était une espèce d'auditeur imaginaire, enfin pas seulement imaginaire, il était réel, il était au bout du fil, hein, mais que j'avais en tête constamment, et c'est à lui que je parle, quoi. Donc, c'est pas un essai à une main, c'est pas un entretien. On a trouvé à mettre sur la couverture conversation, parce que c'était peut-être le terme le moins inadéquat pour saisir le genre de cet exercice, en effet, un peu hybride. Alors ça, c'est la première hybridité, hein, c'est l'hybridité formelle. Puis il y en a une autre qui, à mon avis, est plus intéressante, c'est l'hybridité substantielle. Parce que, en effet, comme vous le faites remarquer, le livre parcourt des registres extrêmement variés, pour ne pas dire complètement hétérogènes. Alors là, c'est vraiment... on trouve tout à la Samaritaine, hein. Vous aurez de la ZAD, de la métaphysique, de la révolution culturelle, une expérience de pensée sur un gouvernement Mélenchon, alors cette fois-ci poussé dans ses dernières conséquences, et puis retour à de la métaphysique, etc., etc. Et en effet, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette salade, quoi. En réalité, cette hybridité-là, ou plutôt cette hétérogénéité-là, elle était inhérente à mon objet. Elle était inhérente à mon objet et elle était inhérente à l'intention que cet objet a déterminée. Alors, qu'est-ce que c'est mon objet? Mon objet, c'est un certain ensemble discursif. Alors, il faudrait que je le dise, je sais pas, édifice discursif ou construction discursif. Enfin, j'ai l'image du bâtiment en tête parce que précisément, ce qu'il s'agissait de saisir, c'était un ensemble de discours qui s'étale sur deux plans différents, sur deux niveaux différents. Alors, il y a un niveau que je qualifie, en reprenant les catégories de Marx, d'exotérique. Comment dire, ce sont les énoncés qui sont les plus couramment en circulation et qui, en première instance, constituaient l'objet de ma discussion. Des énoncés que vous connaissez tous, « Soyons ingouvernables pour un pouvoir destituant »,« Abolissons la monnaie, le travail »,« En finir avec la politique »,« Sortir de l'économie », etc., etc. Et puis, en commençant à creuser là-dessus, je me suis aperçu très rapidement que, en réalité, sous ce plan des énoncés exotériques, il y en avait un autre qui le surdéterminait par en dessous, en quelque sorte, et qui était un plan d'énoncés proprement ésotérique, c'est-à-dire renvoyant à des élaborations philosophiques, mais hardcore. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je diversifie les registres. Je ne pouvais pas me contenter de discuter comme ça de plein pied, soyons ingouvernables pour un pouvoir d'exécution, parce que ces choses renvoyaient, le sachant ou non, je veux dire certains locuteurs le sachant ou non, certains le savent, peut-être pas tous, je crois, ces énoncés renvoyaient à leur, je ne sais pas comment dire, à des énoncés duo ou à leurs jumeaux, mais proprement philosophiques, dont il s'agissait de porter au clair tous les tenants et les aboutissants. Donc, en quelque sorte, je voulais soumettre les énoncés exotériques à l'exercice d'une trempe intellectuelle, pas trempe au sens de baffe, hein, trempe au sens de la sidérurgie, vous voyez, une trempe intellectuelle qui force en quelque sorte à un exercice de rigueur conceptuelle. Puisque, je dois bien le dire, vous savez, c'est au départ de toute démarche intellectuelle, hein, il y a toujours des affects, j'ai les miens comme tout le monde. Et je ne cache pas un certain agacement avec, je ne sais pas comment nommer la chose, ce que j'appellerais, de la poésie deleuziste. Je dis deleuziste et pas deleuzienne. Je m'empresse de dire que Deleuze est un de mes philosophes chéris, n'est-ce pas? Donc c'est pas une attaque sournoise, vous voyez. Mais par deleuziste, j'entends les produits variés qu'a donné la réception de la pensée de Deleuze, et ce, aussi bien que la pensée d'Agamben, hein, d'ailleurs. Et ce sont des produits qui ont une réelle propension à, comment dire, l'enivrement poétique. Alors, donc, il y a des discours qui se font tout seuls dans une espèce d'effervescence, et on décline du devenir, de la ligne de fuite, de la pointe sur la ligne de fuite, et puis bientôt viendra le geste d'Agamben, enfin, il est déjà là d'ailleurs, etc., etc. Et ça, voilà, je voulais m'astreindre et, disons les choses, astreindre mon lecteur à un exercice de rigueur théorique, de rigueur conceptuelle qui me semble l'équivalent, le prérequis équivalent dans l'ordre de la théorie de cette maxime qui est valable dans l'ordre de la pratique, à savoir ne pas se raconter des histoires. Voilà. Donc c'était ça, si vous voulez, c'était ça. Voilà l'objet tel que je l'ai attrapé, tel que je l'ai décomposé, et tel que nécessairement il devait se diffracter dans une multiplicité de registres d'analyse.
Merci. Du coup, on va poursuivre et on va rentrer dans le corps du livre. Donc, vous développez une réflexion autour des philosophies de l'antipolitique et de l'antinomie des virtuoses et de la multitude. Vous réfléchissez à la manière d'évacuer ce piège, la figure du révolutionnaire versus l'humanité ordinaire ou la figure du sage versus les masses. Comment y parvenez-vous?
Alors c'est là qu'on rentre dans le dur. Enfin, c'est en effet la partie proprement philosophique, hein, de la discussion. C'est la deuxième section du livre, d'ailleurs à des fins strictement commerciales. Je m'empresse de le dire. On peut sauter des passages. Hein, vous voyez, on n'est pas forcé de se faire tuer à mort avec ces trucs-là. Moi personnellement, c'est la partie qui m'a donné le plus de plaisir, mais j'ai peut-être des goûts tordus. Hein, donc bon. Alors. Voilà, donc je dis, voilà, des énoncés dans un point ésotérique et puis dessous une strate ésotérique. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la strate ésotérique? On trouve des gens comme Deleuze, Rancière, Agamben, Badiou. Alors c'est ces gens que je discute, bon, évidemment, de manière très très cursive et sous un angle tout à fait particulier. Et alors mon problème au début c'était de me dire, quand même, c'est compliqué parce que, enfin, ces gens-là ont des philosophies qui sont quand même singulières, hétérogènes à bien des égards. Il ne s'agirait pas de tomber dans une opération de catégorisation aussi indigente que celle qu'on voit communément fleurir sur le marché des idées, vous savez, la pensée 66, la philosophie de ceci, la philosophie de machin, qui rassemble dans une espèce de vrac, sous une idée vague, un ensemble de travaux qui n'ont pas toujours grand-chose à voir les uns avec les autres. Bon. Mais là, si vous voulez, il y avait une espèce de récurrence, n'est-ce pas, de ces références à ces auteurs que je viens de nommer. Badiou, il faut le mettre un petit peu à part, hein, et pas en odeur de sainteté dans l'imaginaire du livre sans. Puisque, en fait, j'aurais dû commencer par là, mais je suppose que vous avez compris, enfin, normalement, comme disait le second publicitaire, le titre là est comme le portail, c'est écrit dessus. Donc, ce que je discute, c'est le discours de « on va vivre sans institution, sans travail, sans police, sans justice, sans État, sans monnaie, sans... etc. » Tous objets qui appellent des réponses différenciées, hein, bien sûr. Mais donc, dans cet imaginaire du livre 100, ces références sont vraiment omniprésentes, récurrentes, et je serais presque tenté de dire à la limite entêtantes. Et au début, il m'est apparu qu'elles composaient ensemble comme une espèce d'atmosphère. Vous voyez, c'est un bain intellectuel, un bain tout à fait agréable, hein, d'ailleurs. Je veux dire, il vaut mieux tremper là-dedans que dans autre chose, hein, ça je vous assure, mais qui sont à l'intérieur duquel, voilà, prenait de manière préférentielle les énoncés du livre 100. Et comme il fallait quand même à la fin des fins que je me hasarde à prendre mon risque, c'est-à-dire à qualifier cette espèce de constellation intellectuelle que je voyais se discerner, j'ai choisi pour la caractériser le qualificatif d'anti-politique. Voilà. Il me semble que ce qui les rassemble, c'est que ce sont des philosophies anti-politiques. Enfin, ça peut sembler extrêmement paradoxal, hein, pour des gens qui ne cessent pas de parler de politique, en réalité. Alors comment des penseurs qui sont identifiés sans erreur comme des penseurs politiques sont-ils amenés à développer quelque chose que je qualifie de philosophie anti-politique? Alors je m'explique longuement sur le sujet, mais en deux mots, voilà. Si vous voulez, je pense qu'il y a deux registres, il y a deux manières pour ces philosophies d'être anti-politiques. Il y a l'anti-politique de l'intermittence et l'anti-politique des virtuoses. Alors l'anti-politique de l'intermittence, pour moi, c'est typiquement Deleuze et Rancière. Parce que Deleuze, finalement, quel est le sommet, enfin à mes yeux, hein, le sommet de sa pensée politique, c'est le concept de devenir. Et on ne devient pas en continu, ça serait une contradiction dans les termes. Le devenir, ça, je veux dire, ça, c'est un événement de devenir, au sens de Deleuze, n'est-ce pas? C'est un événement, et puis entre deux devenirs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a le déroulement du temps ordinaire, qui est le temps de l'histoire et de la politique, ce que Deleuze appelle le chronos, par rapport à ce temps très particulier, qui est le temps du devenir, le temps des grands remaniements internes, où on refait sa complexion d'une manière tout à fait inattendue, et ce temps-là, il l'appelle l'agon. Mais sitôt le devenir traversé, on soit à nouveau dans le chronos, dans le temps ordinaire de la politique au sens ordinaire du terme. Et chez Rancière, on aperçoit quelque chose qui résonne assez fortement avec ça, puisque vous le savez sans doute, chez Rancière, il y a deux concepts de la politique. Il y a le concept faible et le concept fort. Le concept faible, c'est ce qu'il appelle la police. D'ailleurs, il ne l'appelle même pas politique. Là, vraiment, l'appellation est dégradante et c'est fait exprès. Hein. L'ordinaire de ce que nous appelons la politique, Rancière l'appelle la police. Et la politique, au sens fort du terme, ce sont des moments, là encore, de remaniement. Des remaniements qui, cette fois-ci, ont le caractère d'un repartage du sensible, c'est-à-dire d'une modification du périmètre des ayants droit à prendre part à l'activité politique de la communauté. Et c'est pareil, entre deux moments de la politique, on recule lourdement dans la police. Bon, alors, moi, je trouve que c'est très bien, hein, d'avoir dégagé ces pointes particulières de la politique, mais c'est embêtant si ça conduit à évacuer complètement du paysage le concept de politique même, tel que nous, simples mortels, nous l'employons, je veux dire, à des fins, enfin, sous des usages un peu prosaïques. On a envie de continuer à dire que ce que nous vivons entre deux devenirs, entre le repartage du sensible, ça mérite quand même le nom de politique et que ça mérite d'être pensé sous la catégorie de la philosophie politique. Voilà, donc l'anti-politique de l'intermittence, puisque la politique n'est réservée, la vraie politique, la politique au sens haut du terme, n'est réservée qu'à des moments singuliers, des moments littéralement extraordinaires. Et puis l'autre figure de l'anti-politique, c'est l'anti-politique pour les virtuoses. Et c'est ici que je mets Badiou, le comité invisible et Agamben. Alors, Badiou, ça peut paraître étrange, de le ranger sous un chapitre anti-politique. Il n'y a peut-être pas penseur plus politique qu'Adam Badiou, n'est-ce pas? Et pour le coup, alors lui ne tombe absolument pas sous l'anti-politique de l'intermittence, puisque s'il y a bien événement chez Badiou, c'est-à-dire un moment tout à fait singulier, l'événement n'en... Il n'y en a pas moins une continuité politique qui est tirée à partir de l'événement selon ce que Badiou appelle les procédures de vérité. Les procédures de vérité, c'est l'ensemble des formes d'action, de discours, etc., qui font vivre un événement dans le temps. Donc là, la continuité de droit est assuré dans la pensée de Badiou. Non, son antipolitique, à mon sens, réside ailleurs, et elle réside dans la figure particulière du militant politique, ou de ce que Badiou appelle le sujet. Bon. Et le sujet est un être tellement extraordinaire que je gage qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup d'entre nous qui soient capables de se porter à sa hauteur. Alors, par exemple, le militant politique, c'est celui qui se lève à 4h du matin pour aller tracter à l'embauche. Alors, vous direz, mais attendez, si, ça, attendez, on en trouve quand même. Hein. Ah oui, mais non, il ne se lève pas n'importe comment. Il se lève pas du pied gauche, ou du pied droit, je ne sais pas comment il faut dire. Non, il se lève sous des mobiles qui sont très particuliers. Par exemple, il ne se lève pas sous la peur de la sanction de son organisation politique. S'il a une panne de réveil, il se fait engueuler, il n'a pas envie, oh là là, donc il se lève. Il ne se lève pas sous un affect de culpabilité qui n'est ni plus ni moins que la sanction organisationnelle introjectée. Non, il se lève sous le mobile d'une perception rationnelle des tenants et aboutissants de toute la division du travail de la vérité, de la procédure de vérité politique, et de la manière dont il s'y insère. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que moi, ça m'a fait penser aussitôt à la manière dont Spinoza représente le sage dans la cité, qui n'obéit pas parce qu'il a peur de la police, qui n'obéit pas parce qu'il est tout bourrelé de culpabilité à l'idée de faire ceci ou cela, mais qui obéit par sous un décret de la raison qui lui fait voir que même un état foireux est encore préférable à l'état de nature. Bon, voilà. Alors, si pour être un sujet au sens de Badiou, si pour être un militant politique, il faut être l'équivalent du sage spinoziste, vous voyez, là, on n'est pas sorti des ronces, quoi. Donc, il y a quelque chose qui va devenir très difficile, puisque précisément, voilà, la politique est réservée à des virtuoses. Et alors, on trouve quelque chose de ça, bien sûr, dans les textes du Comité Invisible, où je vous lis cet extrait qui vient de À nos amis, et qui dit ceci. Dans l'inconsistance générale des rapports sociaux, les révolutionnaires doivent se singulariser par la densité de pensée, d'affection, de finesse, d'organisation, séparent, en italique, l'attention au phénomène par leur qualité sensible qu'ils parviendront à une réelle puissance. Phrase qui en soi est tout à fait recevable. Ce qui est difficile, c'est d'en faire une sorte de cahier des charges, si vous voulez, à la hauteur duquel le révolutionnaire devrait se porter. Et c'est bien quelque chose qui émanait, moi je trouvais très fort, hein, du premier texte du Comité Invisible, et à propos de quoi je voulais avoir cette discussion avec eux. Et très précisément, il y avait une image de la politique comme réservée à des virtuoses de l'éthique. Bon. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'en réalité, leur pratique de l'action politique se passe complètement de cette clause extrêmement exigeante, et c'est probablement tant mieux. En tout cas, le point intéressant et qui retenait mon attention là-dedans, c'est que entre Badiou et le Comité Invisible, qui sont comme chien et chat d'ordinaire, on trouvait un point commun. Et qu'est-ce que c'était que ce point commun? Ce point commun, c'est un mouvement d'éthicisation de la politique. Et alors moi, c'est ça que je voulais discuter. Je voulais discuter de ce mouvement d'éthicisation de la politique, d'un devenir éthique de la politique. Alors je m'empresse de dire tout de suite ici, par éthique, il ne faut pas entendre le bullshit néolibéral ordinaire. Vous savez, celui de la finance éthique, de la responsabilité sociale des entreprises, enfin vous avez toute cette merde qui est faite pour fonctionner comme un solvant, n'est-ce pas, où se dissout complètement la politique, qui ne devient plus qu'une affaire de rectification des comportements individuels. Donc ce n'est pas du tout ça. Là, ici, les mots éthiques sont maniés avec une grande rigueur et un grand à-propos, et j'en veux pour preuve cette autre citation du Comité Invisible, qui est quelques lignes avant celle que je viens de vous citer, alors que pour le coup je partage sans réserve, qui dit ceci: « La véritable question communiste n'est pas comment produire, mais comment vivre. Et le communisme, c'est la centralité de la vieille question éthique. » Et c'est vrai. C'est vrai, on le voit bien d'ailleurs maintenant. Hein. À cet égard, le concept de forme de vie chez Agamben, alors ça c'est sa version lumineuse pour moi, c'est un concept qui pose plein de problèmes par ailleurs, hein. Mais forme de vie, ça désigne en effet une consistance éthique de la réflexion et de l'action politique. Alors, ça c'est très important, semble-t-il, et je pense que c'est sans doute ce dont on doit savoir gré au premier chef aux travaux du Comité Invisible, c'est que dans ce mouvement d'éthicisation de la politique, c'est un mouvement pour se porter à la hauteur de l'époque. Alors nous vivons quand même une époque un peu spéciale, où le désastre semble prendre des proportions telles que la persévérance de l'humanité à la surface de la Terre est en jeu, n'est-ce pas? Et donc, si, je veux dire, toute pensée, toute action politique qui ne se donne pas cela comme point de départ est nulle et non avenue. Or, précisément, c'est ce que fait toute la politique institutionnelle, je veux dire, dans le système des institutions dites démocratiques présentes, n'est-ce pas? Bon. Donc là, dès 2007, hein, dès l'insurrection qui vient, le message du comité individuel, c'était non, mais attendez, hein, vous n'allez pas vous en tirer avec un nouveau réglage de la politique monétaire ou du contrôle des changes ou je sais pas quoi, la sortie de l'euro ou ce que vous voulez. Et là, c'était extrêmement bien vu. Alors, pour moi, le problème, c'est qu'on ne passe pas si aisément d'une ressaisie éthique de la situation, je veux dire du désastre, à une reformulation éthique de la politique qui doit faire face au désastre. C'est là où je pense que c'est là où se situe notre désaccord. Et tout mon propos dans ce livre, c'est de dire que se porter à la hauteur de l'époque, comme le comité invisible en impose l'impératif, précisément appelle le nombre, pas les virtuoses. Les virtuoses, ils ne sont pas nombreux. Et nous, ce dont nous avons besoin, c'est le nombre. Puisque, je vais indiquer un syllogisme qui va revenir de manière récurrente, hein, à mon avis, dans notre discussion, le désastre de notre forme de vie a un nom, c'est le capitalisme. Donc, pour changer notre forme de vie, il faut renverser le capitalisme. Et renverser le capitalisme, c'est une affaire de nombre. Et là, j'en reviens à la définition de la révolution chez Trotsky. La révolution, c'est l'irruption violente des masses dans le domaine où se règle leur destinée. Voilà.
Clairement, tu n'as rien à voir avec le réformisme. Alors, question suivante. Vous poursuivez dans cet ouvrage votre réflexion sur la notion d'institution. Vous développez l'idée de cette impossibilité à vivre sans, de la capacité inhérente à toute société, aussi minime soit-elle, à produire du fait institutionnel en permanence. Vous semblez ainsi mettre en échec le fameux slogan « Soyons ingouvernables » et la philosophie de la destitution d'Agamben. Pouvez-vous développer à ce propos ?
Alors, je vais résumer la thèse de ce livre en trois points. Vous verrez, finalement, je voudrais pas que la contraction du propos, à mon avis assez exhaustive, décourage l'achat, hein, ça va sans dire. Mais voici le résumé. Premièrement, les institutions, c'est la merde. Deuxièmement, cependant, nous ne pourrons jamais vivre autrement que dans des milieux institutionnels. C'est-à-dire, bah oui, j'en vois un qui secoue la tête, ça déjà, qui n'est pas d'accord, mais c'est ça exactement l'objet de la discussion. C'est-à-dire, sous quelque forme d'institution. Troisièmement, par conséquent, la bonne question, ce n'est pas avec ou sans. La bonne question, c'est lesquelles ? Sous quelle forme ? Alors évidemment, il faut se donner des critères, hein, à cet égard. On pourra en parler. Alors, reprenons méthodiquement. Les institutions, c'est la merde. Ça, à mon avis, il n'y a pas besoin de s'apesantir. Enfin, vous, moi, enfin nous tous, nous avons affaire à des institutions en un sens, disons, un peu spontané, vous voyez, immédiat du terme. Les grosses institutions formelles auxquelles nous avons affaire, hein, c'est-à-dire l'employeur, l'entreprise, la police, la préfecture, l'université pour les chercheurs, le champ éditorial pour les auteurs, les musées, les galeries pour les artistes, etc. C'est la merde. Enfin, je veux dire, ces endroits sont, c'est abominable. Alors là, il y a une esquisse un peu rapide dans le livre d'un certain nombre de mécanismes théoriques qui font que presque nécessairement, ces institutions, c'est l'enfer. C'est l'enfer où on ne peut tendanciellement, alors spécialement dans l'époque actuelle, hein, parce qu'il y a quand même des arrangements institutionnels qui marchent, qui sont moins pourris que d'autres. Hein, mais bon, dans l'époque actuelle, en tout cas, on chercherait en vain des organisations institutionnelles qui ne trahissent pas grossièrement leur vocation première. Je veux dire, informer dans vous voyez, informer et éclairer l'opinion dans les médias, c'est impossible. Faire de la recherche dans les institutions universitaires, c'est de plus en plus difficile. Enseigner convenablement à l'école, c'est l'enfer. Soigner convenablement à l'hôpital, c'est l'enfer. Trouver des éditeurs qui savent faire le métier d'éditeur et qui n'est pas en vue que le nombre d'exemplaires à vendre, c'est l'enfer, etc., etc. Donc, c'est la merde. Voilà. Deuxième point. Il y en aura néanmoins toujours. Alors ça, c'est toujours à avaler. Bon, je le sais, et c'est, si vous voulez, c'est à ce moment-là qu'il faut remobiliser de manière un peu brutale l'appareil de la théorie spinoziste des institutions, pour dire deux choses. Premièrement, pour avoir le concept d'institution. Car en réalité, on voit beaucoup de discours qui parlent d'institution et très peu qui en ont le concept. En général, ils en ont une idée générale, mais comme disait Spinoza, les idées générales sont des idées parfaitement inadéquates. Chez Spinoza, les idées générales sont des idées qu'on a formées d'après certains des caractères de l'objet saisi qui nous ont le plus impressionnés. Ah bah oui, mais ça, très bien, on s'appelle ça. Alors du coup, on appelle institution ceci, et puis on ne voit pas que cela est une institution également, parce qu'on a été plus affecté par certains des caractères de ceci, et pas par les caractères de cela. Donc là, ce n'est pas le concept, ça. Alors, moi, je prétends... je prétends rien du tout, parce que c'est pas moi qui fais le travail, si vous voulez. C'est Spinoza a fait le travail, et moi, je tire des fils. Donc voilà mon concept d'institution. J'appelle institution toute manifestation de la puissance du collectif. Ça, c'est un concept. Alors, maintenant, évidemment, vous voyez bien que c'est un concept qui ouvre très largement le spectre de ces instanciations. À cet égard, il y a une citation de Marcel Mauss et de Paul Fauconnet que j'ai mise de côté, parce qu'elle est particulièrement éclairante et qu'elle permet de décaler précisément tous ces points de vue qui restent rivés à une idée qu'il croit générale, mais qui est en fait très particulière de ces institutions. Voici ce que dit la citation. Fonds social, toutes les manières d'agir et de penser, alors j'adore hein, déjà, manières d'agir et de penser, on est en plein spinozisme. Fonds social, toutes les manières d'agir et de penser que l'individu trouve préétablies. Il serait bon qu'un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le mot institution serait le mieux approprié. Qu'est-ce en effet qu'une institution, sinon un ensemble d'actes ou d'idées tout institués, que les individus trouvent devant eux et qui s'imposent plus ou moins à eux? Il n'y a aucune raison de réserver exclusivement, comme on le fait d'ordinaire, cette expression d'institution aux arrangements sociaux fondamentaux. Nous entendons donc par ce mot aussi bien les usages et les modes, les préjugés et les superstitions que les constitutions politiques et les organisations juridiques essentielles. Nickel. Tout est dit. Voilà. En effet, le fait institutionnel, ça va du Conseil d'État ou de la préfecture de police jusqu'au fait que quand on se salue, on se tend la main droite et pas la gauche. Alors, non, vous me direz, alors si c'est ça, c'est tout et n'importe quoi, mais c'est ce que j'entends dire régulièrement. Non, c'est pas tout et n'importe quoi. C'est pas tout et n'importe quoi, parce que ça veut dire que le collectif, en tant que collectif, est une puissance, et qu'il est une puissance normalisatrice. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on peut dire avec la théorie spinozienne des institutions. Ce qu'on peut dire, c'est que du fait institutionnel, il y en aura toujours nécessairement, puisqu'il est inhérent au collectif même. Le collectif constitué est un mode, au sens de l'ontologie des modes de Spinoza, c'est-à-dire un corps, c'est-à-dire qu'il est et qu'il a une puissance. Or, l'ontologie spinoziste est une ontologie de l'activité, une ontologie au terme de laquelle toute puissance s'exerce toujours nécessairement. Toute puissance fait toujours quelque chose. Faire rien, littéralement, hein, faire rien, c'est un énoncé qui n'a pas de sens dans la philosophie spinoziste. Alors, il en a dans la philosophie aristotélicienne. Et ça n'a pas de sens. La proposition 1.36 qui clôt en apothéose la première partie, l'ontologie de Spinoza, l'ontologie de la substance divine, des attributs et des modes, dit ceci, rien n'existe sans que de sa nature ne s'en suive tel qu'est fait. Eh bien, le collectif, à partir du moment où il est constitué comme mode et comme corps, à partir du moment où il est et a une puissance, voit nécessairement cette puissance s'exercer à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cela qu'il faut appeler un fait institutionnel, de telle sorte qu'on peut dire la chose suivante, c'est que l'institution est l'être même du collectif. L'être même du collectif, c'est l'être institutionnel. Le collectif ne se présente jamais que sous la forme institutionnelle, que sous quelques formes institutionnelles. Alors, évidemment, tout ça, c'est très, si vous voulez, c'est ça paraît extrêmement abstru dit comme ça, mais ça débouche sur des conséquences politiques qui sont assez importantes, moyennant un petit détour encore un petit peu abstrait, mais qui s'imposait là en cette matière, qui était le détour par la philosophie d'Agamben. Puisque, j'en reviens au tout début de ma présentation, deux plans, le plan ésotérique, le plan ésotérique. Ah, décision, pour un pouvoir décision. Mais décision pour un pouvoir décision, ça renvoie à une élaboration philosophique tout à fait subtile, tout à fait sophistiquée, qui est la philosophie de la destitution de Giorgio Agamben. Et là, il ne faut pas se tromper, si vous voulez, c'est là qu'il faut manifester de la rigueur conceptuelle. Parce que décision, mais tout le monde est d'accord, décision Macron, bah, c'était le mouvement des Gilets jaunes, à cet égard, c'était un mouvement destitution. Ils voulaient chercher Macron et le virer à coup de latte dans le train. Ça s'appelle une destitution, c'est certain. Mais la philosophie de la destitution d'Agamben, c'est beaucoup plus que ça. La philosophie de la destitution, c'est Agamben, ajoute au sens ordinaire de la destitution le fait de ne pas réinstituer. Il faudrait faire un long détour pour ça. On comprend pourquoi, je veux dire, Agamben a pour obsession, enfin il a pour cauchemar, quelque chose qui se noue autour d'une prémisse tout à fait bien fondée, qui est qu'un ordre institutionnel ne se fonde jamais autrement que par quelques gestes violents. Il n'y a pas de fondation institutionnelle hors d'un geste d'imposition violent. Et on comprend très bien pourquoi, puisque fonder une institution, c'est arbitrairement trancher dans l'indifférencié de la condition anarchique. Je reviens à un an. Hein. C'est ça. Et trancher arbitrairement, si vous voulez, c'est retenir une option et écarter toutes les autres. C'est une violence. C'est une violence qui n'est justifiable que par son... qui n'est pas justifiable, en fait, et qui ne se justifie que de son propre exercice et que par le fait accompli. D'ailleurs, une institution fondée a le plus souvent pour tâche immédiate de faire oublier la violence et l'arbitraire de ses fondements. Donc nous vivons dans l'amnésie de la manière dont les ordres institutionnels se sont installés. Or, si les ordres institutionnels s'instaurent et s'installent de manière violente, ils seront défaits de manière violente également. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ce cycle éternel de la destitution au sens ordinaire et de la réinstitution, les deux violentes, que Agamben voudrait interrompre avec sa philosophie de la destitution, c'est-à-dire avec une ultime destitution, mais qui ne serait pas violente, elle, qui s'opérerait par contournement, par soustraction. C'est très séduisant comme idée, hein. On se barre. On vous laisse. Voilà. L'État, machin, les entreprises, la préfecture, tout ça, on vous laisse. Salut. Nous, on va faire notre vie ailleurs. Et alors, le truc resterait des tas de coquilles vides et s'effondrerait sur lui-même. Et surtout, une fois qu'on aurait fait ça, on ne réinstituerait pas. Sauf que, voilà où intervient l'objection spinoliste. Ne pas réinstituer, c'est une absurdité ontologique. Dans le système de Spinoza, bien sûr. Pas dans celui d'Agamben. C'est une absurdité ontologique puisque le collectif exercera nécessairement sa puissance et que cette puissance passera de l'institution sous une forme ou sous une autre. Alors moi j'en veux pour preuve, alors ça sera des passages qui feront certainement intensément polémique, hein. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé dans des endroits comme la ZAD, qui sont des lieux et des expériences qui se sont notoirement conçus comme soustraction, c'est ça, comme fuite, et comme expérimentation anti- ou a-institutionnelle. Or, évidemment, la ZAD était un endroit aussi institutionnel que les autres, sauf qu'il l'était différemment. Et c'est ça mon point. Il était différemment, et c'était bien, c'est cette différence qui était bonne. Mais le fait, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de normes, etc. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est se raconter des histoires en couleur. Et alors, on revient toujours à la même chose. La question, c'est celle des bonnes institutions. Alors, dernier point, parce que je sais, là, je suis en train de déraper, mais figurez-vous qu'un internaute tout à fait obligeant m'a envoyé un texte que j'aurais jamais pu trouver. Je voudrais bien dire son nom, mais comme je ne sais pas s'il serait pour, j'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander, donc je vais m'abstenir. Mais vraiment, je lui sais gré hein, de cet envoi. C'est une interview qui date d'août 2017, une interview d'Agamben dans la Repubblica. Alors, je n'avais pas le temps de le trouver parce que moi, ma connaissance de l'italien est quasiment inexistante. Mais alors, je ne sais pas pourquoi il m'envoie aussi dessous une traduction en espagnol, en pensant que ça m'aiderait un peu. mais ça m'aide un peu. Je veux dire, bon, et l'un dans l'autre, dans le triangle, voilà, des angles, j'arrive à reconstituer. Je pense assez justement, enfin avec un degré raisonnable de confiance. Hein. Et voilà ce que dit Agamben. C'est tout à fait étonnant. Je pense qu'une société viable ne peut résulter que de la dialectique de deux principes opposés et de quelques formes de coordination entre eux. Le droit et l'anomie. Un pôle institutionnel et un pôle non institutionnel ou anarchique, ou pour reprendre vos termes, qui sont d'ailleurs les siens, il parle à l'intervieweur, les êtres vivants et les dispositifs historiques. Il m'apparaît qu'aujourd'hui, cette dialectique est partout, aussi bien dans la langue que dans les relations sociales, distordues ou rompues. Voilà. Alors moi, cet énoncé agambénien, 100%. J'adhère à 100%. C'est tout le sens de mais alors, vous voyez, heureusement, c'était les lombaires bien calés et tout, je ne suis pas tombé à la renverse. Mais j'avais passé des mois et des mois dans sa philosophie qui disait, non, on peut, il faut en finir avec les institutions. Destituer, c'est en finir avec les institutions. Enfin, plein d'autres choses à dire sur ce mélange, hein, de le pôle institutionnel, le pôle non institutionnel ou l'anarchique, mais plus tard peut-être.
Merci. Alors, dernière question, a priori. Pourquoi mobilisez-vous la référence de la révolution culturelle chinoise, qui est pourtant largement diabolisée à l'heure actuelle sur l'ensemble de l'échiquier politique? Et à l'inverse, comment expliquez-vous le succès des imaginaires de la commune, les ZAD dont vous avez déjà parlé, la commune de Paris, les trucs de piraterie, etc.
Oui, bah, le succès d'un imaginaire de la ZAD, d'un imaginaire des pirates, ou d'un imaginaire des forêts ou des cabanes, c'est ni plus ni moins que, métonymiquement, le succès de l'imaginaire du livre sang. Et ce succès, encore une fois, j'ai essayé d'être, aussi honnête que possible, hein, bref, je veux dire sous réserve des contraintes que m'impose ma complexion, bien sûr, mais quand même, de faire la part des choses et d'essayer de faire justice. Alors ce succès, pour moi, il a il n'a pas fait des mauvaises raisons, mais il en a aussi des très bonnes. Alors, j'en ai dit certaines tout à l'heure. Il y a, cet imaginaire nous fait voir. Voilà, il y aura une grande discussion à avoir tout à l'heure, hein, parce que qui touche aussi, vous voyez, à ce qui est en train de se passer au Châtelet, etc. J'imagine qu'on va en parler. Hein. Ce succès, il tient au fait de montrer l'inanité définitive du cadre institutionnel présent à nous sortir de la merdouille où lui-même nous a jeté d'ailleurs. La raison pourquoi d'ailleurs il ne saurait nous en tirer. Et il aide à cet ensemble, tout cet ensemble de discours aide à, je le disais tout à l'heure, je ne peux pas le dire de manière différente, à nous porter à la hauteur de l'époque. Ouais. Nous porter à la hauteur de l'époque, c'est pas, ce ne sont pas les mêmes problématisations que nous devons déployer aujourd'hui que celles qui pouvaient nous préoccuper quand on vivait la crise du fordisme, l'entrée dans le néolibéralisme, etc. C'est autre chose. Et cet imaginaire, c'est aussi un imaginaire indispensable de l'expérimentation. Les mauvaises raisons, dirais-je, sont symétriques des bonnes, c'est-à-dire c'est un imaginaire qui fait vibrer une corde trop sensible, qui fait vibrer trop facilement la corde de nous nous soustrairons à tout. Nous nous soustrairons aux institutions, aux lois, aux règles, aux normes. Nous vivrons sans rien de tout ça. Bref, nous serons libres. Et ça, c'est une sale corde, hein, pour moi. C'est une sale corde parce que c'est vraiment la corde de la métaphysique individualiste telle que le néolibéralisme nous l'a foutu dans le crâne et nous l'a incrusté, enfin, l'a incrusté à une profondeur inouïe jusque dans les têtes qui se croient les plus anti-libérales. Là, il y a quelque chose qu'il faut interroger. Et, je veux dire en termes exprès provoquants, hein, l'obéissance est le corrélat d'une vie dans les institutions. C'est là, je veux dire, obéir, c'est le terme qui vous agresse au dernier degré, ça agresse tout le monde, n'est-ce pas? Oui, mais je veux dire, à la ZAD, on obéit. On obéit aux normes de la ZAD. C'est normal. Dans un collectif, on obéit. Donc, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre obéir versus et, obéir et être serf versus désobéir et être libre. place qu'il faut mettre obéir heureux ou obéir triste. Obéir selon son propre désir, plus exactement selon un désir qu'on partage, ou obéir en étant contraint par rapport à ses propres inclinations. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, si vous rejoignez un collectif, vous vous soumettez à ses normes, vous obéissez, mais, et d'ailleurs, en cas d'infraction, vous sentirez hein, le fait institutionnel qu'est ce collectif. En cas d'infraction, vous sentirez la puissance du groupe vous tomber dessus. Bon. Donc, mais, alors, ça c'est une chose, mais si c'est un collectif qui s'est constitué autour de principes que vous partagez, qui correspondent aux lignes de votre désir, vous obéissez dans la joie. Voilà. Donc, c'est, vous voyez, c'est deux modes, c'est des modalités différentes de l'obéissance qu'il faut considérer plutôt que cette fracture qui, à mon avis, n'a pas de sens entre obéir et désobéir en se croyant évidemment libre de tout. Et alors, donc, la chose qui est pour moi importante, c'est que l'Azad et le Purat, c'est un truc formidable parce que, ou les forêts, hein, parce que ça fouette nos imaginaires. Là où il y a un point où ces évocations deviennent problématiques, c'est quand elles laissent à penser qu'à elles seules, elles pourraient constituer des formes politiques complètes. Alors moi, par forme politique complète, j'entends une entité macroscopique. C'est là la différence. Évidemment, on peut considérer qu'un bateau de pirate, c'est une forme politique. C'est une forme politique. D'ailleurs, alors c'est formidable, hein, il y a un très beau livre de Jean-Paul Fournier sur les pirates, mais qui en fait exploite à des travaux magnifiques d'un historien américain qui s'appelle Robert, je crois, Rediker, Marcus Rediker, merci beaucoup, qui a été édité par Libertalia sur les pirates, c'est extraordinaire. Alors ceux qui croient que le bateau de pirates, c'est la liberté sur l'eau, et pas d'institution, mais alors se foutent le doigt dans l'œil et juste à l'œil crâne. Je veux dire, c'est tellement faux que les pirates ont une constitution. Une constitution. Alors ça me rappelle, moi, ce que j'ai entendu sur la République, mis debout, où on se moquait gentiment, hein, il y a des ateliers constitution, machin. Ouais, mais les pirates, ils ont une constitution, avec des articles. Merveilleux, hein, d'ailleurs, c'est vraiment formidable. Mais un bateau de pirates, c'est pas une forme politique complète. Il y a tous ceux qui sont à terre, et pareil, si on est 20 cabanes dans les forêts, il y a tous les autres qui habitent pas dans la forêt. Bon. Alors ça fait des formes politiques très intéressantes, parce qu'elles ont la vertu d'expérimenter, donc de prouver en marchant qu'il y a d'autres rapports sociaux possibles, mais après, se poser la question de leur généralisation à l'échelle macroscopique, c'est une autre question. Alors, j'ai voulu précisément mettre dans un rapport de violent contraste des expériences comme les cabanes, etc., avec la révolution culturelle, qui est à peu près l'opposé dialectique. La révolution culturelle, ça se joue par millions, vous voyez. Donc, c'est un sacré truc. Et moi, il me semblait que c'était indispensable d'en revenir à cet épisode de l'histoire, qui effectivement ne jouit pas d'une popularité excessive dans le débat public. Alors là, il faut savoir lui rendre hommage. C'est Alain Badiou qui en a porté le souvenir, enfin, parmi d'autres bien sûr, mais l'un des plus visibles en avoir porté le souvenir et la méditation à bout de bras, alors quoi que des fois, bon, c'est lui. Et donc ça, à cet égard, bon, évidemment, je me sépare de lui quant à une lecture, à mon avis, un chouïa enchanté de la révolution culturelle, mais bon, mais peu importe, voilà, en tout cas là, voilà. Et pour moi, si vous voulez, si la pensée révolutionnaire des temps présents commence par une méditation des épisodes révolutionnaires du passé, et d'une méditation de ces épisodes du passé en tant que chacun eux-mêmes méditait les épisodes antérieurs, alors nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la révolution culturelle. Bon, vous savez bien, 1848, la Commune médite l'accomplissement incomplet de la révolution de 1789, révolution dans les institutions politiques, qui oublie complètement qu'il y a une révolution sociale et économique à faire derrière. Bon, la révolution de 17 médite les échecs de la Commune. Vous connaissez sans doute l'histoire de Lénine qui, à J73, danse devant le palais d'hiver. C'est pas si l'histoire est vraie. Parce qu'il a battu le record de longévité de la Commune. Bon. Et la révolution culturelle, c'est ça qui est tout de même admirable, quelles que soient les horreurs auxquelles elle a pu donner lieu par après, hein, qui sont incontestables, mais il y a au moins ce geste admirable de méditer la dégénérescence de l'état bureaucratique stalinoïde. Bon, donc là, il y a, si vous voulez, c'est une méditation très très profonde de ce fait que la recapture de la puissance de la multitude révolutionnaire dans des appareils qui vont être tendanciellement séparés, se retourner contre la multitude qui les a passés au pouvoir, enfin, etc., etc. Et donc la révolution culturelle, selon le mot d'ordre paradoxal que vous connaissez, c'est feu sur le quartier général. Alors, mot d'ordre paradoxal, puisque c'est un mot d'ordre qui est formulé par le président Mao lui-même, vous voyez, depuis le sommet du quartier général en question. Bon. Donc il y a toute une histoire sur laquelle il faudrait revenir là-dessus, mais moi je crois que ce que nous devons faire précisément, c'est méditer l'échec de la révolution culturelle en tant qu'elle-même méditait un échec qu'il était de la première importance de méditer. Puisque méditer l'échec de la révolution culturelle, puisque vous savez, comme moi, le déchaînement de violence dans lequel cette révolution culturelle s'est abîmée. Et moi, c'est ce qui m'a toujours étreint dans cet épisode historique. C'est comment un épisode dont l'excellence des attendus était incontestable a pu si atrocement pourri. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose à penser. Et il y a quelque chose à penser précisément, moi, sur cette chose qui me préoccupe depuis toujours, qui est ce que Spinoza appelle la disconvenance passionnelle. Enfin, alors là, c'en est un cas, si vous voulez, d'explosion à une échelle tout à fait considérable. Donc ça fait partie des tâches intellectuelles de l'heure, contrairement à ce que voudrait donner à croire. C'est une espèce de discours ambiant qui range ça au magasin des diplodocus. Moi, de toute façon, je n'arrête pas d'aller chercher, d'aller piocher dans le magasin des diplodocus. On en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup à la catégorie du grand soir, dont tout le monde dit qu'elle est un ringardisme totalement irréparable.
Alors, on va passer aux questions du public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais faire circuler le micro.
Oui, j'aurais une question qui est relative à deux des choses qui ont été dites et que je trouve tout à fait juste et en elle-même peu discutable. Le fait que tout collectif institue quelque chose, donc l'institution, d'une certaine façon, on n'y échappe pas. Et puis cette formule remarquable, elle aussi, qui est « les institutions, c'est vraiment la merde ». Parce que je veux bien que les institutions, ce soit vraiment la merde, mais parmi les institutions évoqué, il y a celle qui consiste à tendre la main droite pour serrer la poigne quand on se croise. Et je ne trouve pas que ce soit vraiment la merde. On pourrait faire autrement. Mais je ne pense pas que cette institution soit vraiment la merde. Et donc, si les institutions, c'est quelque chose qui inclut ça, l'expression « les institutions, c'est la merde » ne marche pas. Autrement dit, n'y a-t-il pas un malentendu ou un jeu de mots ou un effet rhétorique sur le mot « institution » lui-même? Et n'y a-t-il pas lieu, au-delà du caractère très général que peut avoir cette formule, dans le sens que vous avez dit que tout collectif institue quelque chose, n'y a-t-il pas lieu de caler autre chose, qu'on appellerait peut-être autrement que institution, ou institution avec une astérisque, ou institution avec un I majuscule, où on se débrouille comme on veut, qui serait ce dont on pourrait dire, c'est la merde.
Bonsoir. Alors, j'ai une remarque et une question. La première question, la question rejoint ce que vient de dire le monsieur, c'est-à-dire finalement pourquoi tenir à ce concept d'institution s'il inclut de fait un rapport d'autorité et de répression. Alors, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire tout collectif finit par devenir une institution qui finit devant une certaine désobéissance à réprimer. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'un collectif, ce soit encore une forme politique ou une forme de vie politique qui est tout le temps en train de chercher son organisation? C'est-à-dire, est-ce que, effectivement, la notion de collectif telle qu'elle pourrait essayer de se penser aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va plutôt dans ce sens-là? C'est-à-dire, tout élément du collectif participe à sa forme, participe à le former. Alors ensuite, sur cette idée de puissance, que vous avez souligné chez Spinoza. Alors, chez Agamben, on peut trouver une idée que moi j'ai trouvée lumineuse, qui dit que toute puissance est un pouvoir de faire et de ne pas faire. Et alors voilà, je voudrais, par rapport à ce que vous avez défini, vous, comme à partir de Spinoza, dans le rapport collectif action et puissance, qu'est-ce qu'on peut faire de ce pouvoir ne pas faire?
Bonsoir. Alors, moi, j'avais une question plutôt sur la dernière partie du livre où vous discutez le concept de schizo chez Deleuze. Et en fait, vous écrivez que, selon vous, le mensonge originel, la nécessité du mensonge originel, de cette occultation de tout régime axiologique qui, pour s'instituer, doit cacher l'arbitraire avec lequel il s'institue. Donc c'est vraiment ce que vous disiez dans la condition anarchique. Et en fait, je me demande jusqu'à quel point c'est vrai, parce que le modèle de la science, pour moi, il est assez incroyable sur ça, c'est que c'est évident qu'il y a des modèles et des paradigmes en science, dans absolument, là j'entends les sciences dites dures, toutes les thèses, toutes les hypothèses cherchent systématiquement à faire, si on prend le critère un peu banal de Popper de la réfutabilité, cherchent à se tester, à se réfuter et à rendre visible le fait qu'elles appartiennent à un modèle, qu'elles appartiennent à un paradigme, et donc qu'il n'y a absolument aucune norme transcendante vis-à-vis de ça. Donc en fait, la condition anarchiste devient finalement la possibilité pour ces hypothèses de leur existence, de leur survie, et elles ont toutes un intérêt, on pourrait dire, enfin, peut-être connatif, à révéler la condition anarchique. Et je me demande, du coup, dans le champ politique, si on pourrait penser un régime institutionnel sur ce mode-là. Et donc, il y a une deuxième chose, c'est que je trouve que c'est incroyable comment le déterminisme intégral chez Spinoza peut être à ce point contre-intuitif dans l'existence quotidienne. Et moi, il y a une pensée politique qui me frappe énormément quand je lis Virginie Despentes sur le féminisme. Je trouve ça incroyable qu'elle tire le déterminisme jusque dans ses dernières conséquences, au point d'avoir des positions de l'ordre d'un féminisme en fait anticarcéral. Et on imagine bien à quel point ça doit être difficile de soutenir une position pareille compte tenu des violences patriarcales qu'elle dénonce, mais elle tire le déterminisme jusque dans ses dernières conséquences. Et selon vous, c'est un peu la deuxième partie de la question, comment est-ce qu'on pourrait penser des institutions qui vraiment prennent acte du déterminisme intégral spinoziste? Agamben, dans un ouvrage il y a 2 ans, je crois, Carman, montre l'invention théologique du concept de libre arbitre. C'est un concept qui n'est absolument pas naturel. Les Grecs arrivaient à penser une liberté sans libre arbitre. C'est un dispositif qui a une origine et qui donc est potentiellement destructible. Est-ce qu'on pourrait avoir une conscience quotidienne déterministe, disons?
Merci. On n'est pas rendu, hein. Non, c'est des questions passionnantes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'ai vu une quasi-identité hein, entre votre question et la vôtre. C'est vraiment ça parle de la même chose. Alors je vais commencer par la première question. Vous avez, je suis obligé de dire que vous avez un peu raison hein, quand même. C'est-à-dire que j'ai un concept, effectivement, je maintiens malgré tout, à des fins d'homogénéité conceptuelle, je maintiens la caractérisation théorique que j'ai donnée de l'institution, mais vous avez raison de faire remarquer que quand je posais le premier point du mouvement d'ensemble du livre, à savoir les institutions c'est la merde, qui fait l'objet d'ailleurs de la toute première section dans le livre, je le fais avec un implicite que vous avez déduit, qui est que j'entends la institution en effet en un sens restreint, que je ne saurais même pas qualifier conceptuellement de manière très très tranchante. Peut-être qu'il faudrait dire, en reprenant des vieilles distinctions des sciences sociales institutionnalistes, les institutions formelles versus les institutions informelles. Alors, est-ce que les institutions informelles sont, par ce caractère même, exonérées de toute merdouille? C'est pas sûr du tout. Par exemple, une institution informelle, par excellence, c'est l'opinion. Si ceux qui habitent à la campagne doivent voir de quoi je parle. Enfin, je veux dire, habiter à la campagne, c'est, ou dans un village, c'est avoir le regard de tous sur le dos. Ça, c'est une institution informelle. Et c'est la merde, hein. C'est indéniable. Bon, donc le partage formel-informel n'est pas tout à fait le bon. Alors, se serrer la main, ça mange pas de pain, dites-vous. Globalement, c'est vrai. Mais, quand même, hein, je veux dire, si vous entrez dans une salle et que vous vous amusez à tendre systématiquement la main gauche à tout le monde, ça va commencer à murmurer. Et on va vous regarder de travers. Et là, ça vous sentirez ce que c'est que la puissance du collectif, la puissance de la multitude, la puissance formalisatrice. Vous sentirez que c'est institutionnel. Bon. Mais je vous accorde que je pourrais faire mieux, voilà, sur ce sujet-là. Maintenant, quand vous avez commencé en disant, c'est une remarque tout à fait incidente, quand vous avez commencé en disant tout collectif institut, évidemment, c'est une manière de formuler qui fait inévitablement penser à Castoriadis. Alors c'est très drôle, hein. Bon, moi j'ai un peu travaillé sur les rapports de Castoriadis et de Spinoza, je m'y suis mis tardivement, alors c'était une évidence. Vous voyez, l'institution imaginaire de la société, si c'est pas un titre spinozien, qu'est-ce que c'est, quoi? Donc il y a des points de friction et de divergence, c'est très drôle, hein. Il y a des points de friction et de divergence, mais insurmontables, en même temps qu'il y a des échos et des points de retrouvailles qui sont tout à fait impressionnants, et précisément autour de cette idée du collectif comme puissance instituante. Alors, Castoriadis, c'est évident, n'a jamais lu Spinoza, ou alors très très en survol et de travers, donc il en parle peu, sauf pour le qualifier de fou furieux, je veux dire de fou de la raison, enfin de psychotique, ou je... C'est peut-être pas faux, hein, du reste, mais c'est pas suffisant pour discréditer sa philosophie. Et il n'a pas le concept de puissance de la multitude, qui pourtant donnerait vraiment théoriquement corps à sa propre intuition, qui n'est pas un concept, de le collectif anonyme. C'est ça, la puissance instituante, Castoriadis l'appelle le collectif anonyme. Alors, votre suggestion du corps collectif, tout le temps en train de chercher sa forme et son organisation, c'est exactement ce que je pense. C'est exactement ce que je pense. Et c'est ça qui m'a beaucoup... Mais oui, j'espère que vous irez jusqu'au bout du livre pour en être convaincu. Il y a une image qui me trotte dans la tête depuis longtemps, mais pour l'heure, ça n'est qu'une image, c'est purement métaphorique. Mais bon, je veux dire, le travail du concept, ça mobilise aussi l'imagination quand même. Hein. Et cette image qui me trotte dans la tête, c'est celle de ce que serait, encore une fois, c'est très très métaphorique, les divers états de la matière sociale. Vous voyez, comme quand on parle des différents états de la matière, les différents états de la matière sociale. Ou ce qu'on appelle également ces phases. Alors les phases, en physique, une phase, c'est pas un intervalle de temps. Hein. Une phase, c'est précisément ça, c'est un état de la matière. Il y a la phase liquide, la phase gazeuse, puis il y a certains processus physico-chimiques qui font passer de l'un à l'autre, qu'on appelle des transitions de phase, etc. Et toute une physique très belle autour de ces questions. Et moi, qui a conduit à développer ce que les physiciens appellent des états mésomorphes. Les états mésomorphes, ce sont ces états en apparence qui ont la propriété en apparence paradoxale de conjoindre des caractères a priori incompatibles de différents états de la matière. Exemple, les cristaux liquides. Cristaux solides, liquides, liquides. Ah, tiens, un solide liquide. C'est bizarre. Hein. C'est très intéressant. C'est ça, les états mésomorphes. Et moi, si je devais me donner voilà, une direction de pensée qui ait quelques caractères prescriptifs ou normatifs, etc., je dirais que ça serait précisément celle-là. Ça serait d'identifier ce que pourraient être des états mésomorphes du collectif. C'est-à-dire, et là, c'est pour ça que je ne vous ai pas dit pour rien, je n'ai pas fait pour rien cette citation d'Agamben dans La République, c'est exactement ça ce qu'il dit. Un pôle institutionnel, cristal, disons, un pôle anarchique, disons liquide, et une dialectique entre les deux. Et moi, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire, évidemment, les institutions sont toujours plus du côté de la stabilité, de la fixation que du mouvement, par construction même du concept. Mais précisément, la bonne forme du corps politique, ça serait celle qui en quelque sorte, institutionnalise la déstabilisation au cœur des institutions de la stabilité. Vous voyez, c'est ce genre de dialectique. Donc, avec un processus institutionnel qui est en permanence réflexif, c'est une des propriétés de l'autonomie, n'est-ce pas ? Revenir sur soi, corriger, faire bouger, ne pas rester aussi fié dans une configuration quand elle commence à s'avérer pénible, etc., etc. Bon, et il semble que voilà, c'est ça qu'il faut viser par excellence. Alors évidemment, ça coûte rien de le dire. Après, qu'est-ce que c'est concrètement les arrangements pratiques qui permettent de mettre en œuvre ce genre de principe? Bon, je sais pas, on peut avoir des idées, ça rejoint des idées en fait très simples et très très connues, hein, sur la révocabilité, la rotation des mandats, des choses comme ça. Ça organise du permanent, donc ça. Mais ce qui est certain, c'est que, et là je vais vous répondre, ce qui est certain, c'est que par construction, l'institution, c'est la fixation temporaire d'une forme. Voilà. Si bien que les mots d'ordre non critiques sur la défixation comme principe, à mon avis, font fausse route. Parce qu'on ne peut pas vivre, par définition, on ne peut pas vivre dans la défixation permanente. On ne peut pas n'être jamais fixé à rien. Et c'est là qu'arrive le ciseau. Le ciseau de Leusien. Précisément, parce que, il y a des figures de la défixation. Des figures individuelles, des figures subjectives de la défixation, elles ne sont pas belles à voir. C'est le psychotique décompensé. Bon, je dis ça depuis un travail, c'est des idées nouvelles, hein, qui sont en train d'arriver dans mon champ d'élaboration. Je dis ça depuis un travail que je fais avec une auteure qui s'appelle Sandra Lubert et qui vient avec son savoir psychanalytique et que j'essaye de mêler à mon spinozisme. Donc je débute, si vous voulez. Je pense que là, il y a une intuition qui vaut quelque chose, n'est-ce pas? Le psychotique décompensé, c'est celui dont tous les ancrages psychiques ont lâché ou n'ont pas été formés. Et c'est atroce. C'est atroce, c'est pas, je veux dire, n'importe qui a fait de la clinique en hôpital psychiatrique, vous le dira, c'est des spectacles abominables. Alors, Deleuze et Guattari ont fait du schizo une espèce de figure héroïque. Bon, c'est très compliqué cette histoire. Je pense que Guattari y était pour beaucoup là-dedans. Et Guattari a toute cette théorie sur les agents collectifs d'énonciation. Qu'est-ce que c'est les agencements collectifs d'énonciation, ou les groupes sujets, dit-il plus tard? C'est l'instanciation de ce que, dans la citation que j'ai donnée, Agamben appelle le pôle non institutionnel ou anarchique, c'est-à-dire une sorte d'énergie libre et sauvage, pour ainsi dire, qui est absolument nécessaire pour, je ne sais pas comment le dire, tout le bordel, enfin, remettre en mouvement des agencements cristaux. C'est la force liquide qui déstabilise les agencements institutionnels cristaux, et sans lesquels, en effet, nous sommes condamné à l'ossification, à la pétrification, et assez souvent pour le pire. Voilà. Mais si ces interventions défixatrices sont absolument nécessaires pour faire vivre quelque chose comme des états mésomorphes du politique, elles ne peuvent pas être le principe exclusif du corps politique lui-même, puisque alors sinon, effectivement, c'est-à-dire, ça n'est plus qu'une dérive hors de tout ancrage, et ça, c'est pas une condition enviable. Et alors, j'ai beaucoup aimé votre parallèle avec l'épistémologie, parce qu'en effet, c'est exactement ça. Vous parlez de Popper, moi j'avais plus en tête des références qui sont tout aussi classiques, qui sont celles de Kuhn et de Lakatos. C'est-à-dire qu'en effet, à un moment, quelque chose se stabilise en une certaine manière de faire de la science, de la physique, mettons, et ça, c'est bien quelque chose qu'on peut appeler un fait institutionnel, et qui normalise, qui commande tout un champ, qui normalise parfois, à la trite, hein, dans le champ académique, c'est publié sans périche, et si vous publiez hors des clous, c'est comme si vous publiez rien. Alors là, je peux vous le dire de première main. Hein, Donc, on a à faire exactement la même chose. C'est-à-dire les et en même temps, il faut bien qu'une manière de faire de la science soit fixée pour pouvoir mobiliser les rendements croissants, déplier les effets de cumulativité, etc. On peut pas, si vous voulez, on peut pas remettre en question tous les quatre matins les hypothèses fondamentales de la physique. C'est plus physique, on fait n'importe quoi. C'est plus qu'un gigantesque bordel, quoi, vous voyez. Et on peut pas non plus en laisser une, là, embaumée, et qui interdit toute manière alternative de se faire. Voilà. Donc c'est, voilà, dans le champ de la science, dans le champ de la politique, c'est exactement ce type de configuration qu'il faut chercher.
Bonjour Monsieur Lordon. Alors, moi il y avait un nom qui m'a surpris parce qu'il n'est pas revenu pendant cet échange, c'était celui de Pierre Bourdieu. Dans votre modèle des institutions, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous amenez le fait qu'elles arrivent à trahir, si vous voulez, leur fonction de base, c'est-à-dire que la santé publique ne soigne plus parce qu'elle se préoccupe du profit, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt y voir une espèce d'hétéronomie au sens kantienne, c'est-à-dire qu'un champ, ici le champ économique, ou le champ, enfin, par le truchement du champ politique, c'est-à-dire le champ économique impose sa logique qui est propre, celle de la rentabilité donc, à d'autres champs qui n'ont rien à voir fondamentalement avec l'économie, comme le champ de l'éducation, le champ politique, le champ de la santé. Donc la question que je me pose, c'est, dans le cas de la science, par exemple, les acquis de la science qui ne sont pas ajoutés, est-ce que dans ce cas-là, on ne pourrait pas tout simplement se dire que le champ scientifique s'est constitué de façon effectivement relativement arbitraire, historiquement contingente, accidentelle, mais que c'est effectivement son autonomie propre, c'est-à-dire l'accord entre la pratique scientifique et les principes que se donne le champ scientifique, c'est-à-dire celui de vérificabilité, empirisme, statistique, etc. Est-ce que du coup, on ne pourrait pas avoir une espèce de vision de la science qui serait à la fois non sceptique, au sens de dire effectivement les acquis de la science sont intéressants, ils nous permettent de faire des choses et ils ont une réalité hors de notre point de vue, mais en même temps les banaliser au rang de construction purement contingente et historique, en fait, et concevoir que, effectivement, ces problèmes d'autonomie, d'hétéronomie s'imposent, quoi. Voilà.
Je vous ai aperçu donc sur du shopping à Italie 2 la semaine dernière. Donc je vous demandais si vous avez des opinions par rapport à ce qui s'est passé là-bas et à Châtelet depuis. La question que je me pose personnellement, c'est est-ce que ça va réussir à évoluer au-delà des revendications qu'ils ont actuellement et devenir un peu plus intéressant au niveau des revendications, ou est-ce que ça va s'embourber dans la gentillesse un peu qu'ils ont et si on va devoir attendre un autre mouvement pour faire une révolution plus intéressante. Voilà.
À propos des institutions, parfois quand même informelles, jusqu'où la fameuse question du voile, par exemple, c'est-à-dire que c'est plus qu'embêtant à penser. Parce que moi, je pense qu'à une femme qui ne veut pas le porter alors qu'on veut lui faire porter, c'est... Non, mais je ne sais pas, je... Voilà, la preuve que c'est de la dynamite. Voilà. Donc la question tout à l'heure de la main droite, c'est vrai, vous l'avez montré en 5 minutes, mais on voit d'autres problèmes comme ça, c'est de la dynamite. Et on le sait.
Je vais les prendre dans l'ordre inverse, forcément, parce que là, la dernière, je vous en pardonne, hein, mais elle va être discutée. On n'est pas à CNews, vous voyez, je veux dire, donc non, on va pas parler de ça comme ça, dans ces termes-là, etc. Non, ça peut pas aller. Alors, Bourdieu, l'hétéronomie et l'autonomie, puisque finalement, ça c'est le prolongement direct de la question juste avant. Moi, j'ai longtemps été sensible à cette thèse bourdieusienne. Il y a des univers qu'on appelle des champs. Certains sont bien configurés si on les laisse à leur autonomie. Ça commence à déconner si on y injecte des logiques extrinsèques qui les font dérailler. Alors en effet, c'est ce que vous disiez, les institutions de santé ne soignent plus à partir du moment où on les soumet à des critères managériaux qui n'ont rien à voir avec le soin. C'est parfaitement vrai. Donc là, on a un cas type d'irruption ou d'effraction d'une logique étrangère à la logique de l'institution et ça la met en torche. Bon. Le problème, c'est que, par exemple, et c'est particulièrement valable avec le cas de la science, et d'ailleurs, c'est, je le disais dans la réponse que je venais de faire, il y a des univers académiques, même laissés à leur autonomie, ils peuvent se rigidifier, ils peuvent se pétrifier, parce que la logique intrinsèque de ces domaines ne contredit nullement l'engendrement de faits institutionnels de second rang, de faits institutionnels internes, et l'activité scientifique se pollue de toute une série d'enjeux de pouvoir symbolique, par exemple, qui se manifestent au travers de l'accès aux conférences, l'accès aux revues, les distinctions, la remise des prix, etc. Et je dois vous dire que moi qui suis un être naïf et crédule au dernier degré, il y a une naïveté que dès le début j'ai fait l'économie, quand je suis devenu chercheur, c'était celle qui consistait à croire que j'entrais dans un monde de purs esprits. Alors donc supposons, hein, normalement les institutions autonomes sont celles qui favorisent le mieux l'épanouissement des purs esprits. Vous avez raison. Non, mais alors là, j'ai trop écrit sur le sujet pour ne pas être d'accord avec vous. Hein. C'est pas ça que je voulais dire. Par esprit impur, j'entends des gens qui non seulement ont un intérêt au désintéressement, mais enfin qui finissent par avoir un intérêt à l'intéressement pur et simple, et qui tombent dans les dilemmes les plus misérables. Si vous saviez le taux de saloperie qui règne à l'intérieur des institutions académiques, mais indépendamment hein, indépendamment de ce qui là-bas complètement actuellement, hein, c'est-à-dire le néo-management, etc. Non, mais même laissé à sa dynamique à lui. Il y a des gens, c'est vraiment, mais qui se comportent comme des ordures. Hein, mais alors, dans tous les compartiments du jeu, je veux dire, avec leur doctorant, avec leurs collègues, enfin, c'est atroce. C'est atroce. Moi, j'aurais des épisodes à vous raconter, je peux vous dire, c'est du gratiné. Alors, la question du chapelet. Ah, oui, oui. Oui, en effet, je suis allé faire un petit caddie à Italie 2 samedi dernier. Et c'était vraiment bien. Alors ce qui m'embête, c'est que j'avais trop travaillé, j'ai pas pu aller au Châtelet jusqu'à présent, j'y vais demain après-midi en espérant que ça tienne d'ici là. Ah là, il y a beaucoup à dire, hein. Il y a vraiment beaucoup à dire. Je vais reprendre le syllogisme que j'ai développé tout à l'heure. Il y a une cause au désastre social, désastre humain, désastre psychique au pluriel, désastre environnemental et écologique. Il y a une cause à ça, c'est le capitalisme. Donc si on veut éviter au dernier moment le désastre, il faut renverser le capitalisme. Bon. Alors maintenant, comme je me disais qu'il était probable qu'on m'interroge là-dessus, il se trouve que je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un entretien. Bon, je me suis un peu moqué dans un papier récent de ce que j'appelle les bardes du changement climatique. Alors, bah, écoutez, je vais sortir du bois et je vais donner des noms. Donc, il y a un entretien dans une revue en ligne qui s'appelle Diacritique de Aurélien Barraud. C'est pour moi le bar des talons. Et voici. Alors, la question dit la chose suivante. Ton livre énonce plusieurs mesures d'urgence à prendre. Il n'est évidemment pas lieu ici de les détailler, etc., etc. Et réponse d'Aurélien Barraud. Donc, on lui demande dans Cité Humaine, hein, si chacun devait commencer par un engagement, ce serait lequel ? Réponse, ça serait d'oser interroger tout ce qui nous semble si évident, plutôt que de se battre pour le pouvoir d'achat, ne devrait-on pas se mobiliser pour le devoir d'aimer ? Alors là, si vous voulez, on n'a plus qu'à se ramasser les bras qui sont par terre, quoi. Voilà, je veux dire, si c'est ça, le guide éclairé de... On va finir cramé, hein. Non, mais je vous le dis, là, on est bon pour le barbecue. On va pas du tout y arriver. C'est bon, alors c'est affreux, je veux dire, c'est affreux. Mais, en réalité, le pire n'est pas tant dans la réponse, parce que là, la réponse, elle est tellement énorme que forcément... Le pire, il est sournoisement replié dans une question qui ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Voici les termes de la question. Ton livre énonce plusieurs mesures d'urgence. Des mesures, vous voyez. Mais non. Regardez, c'est extraordinaire comme les esprits sont colonisés sans le savoir par des formes discursives. Ce qui nous arrive n'est pas une affaire de mesures. Il y a des gens, notamment Extinction Rébellion, qui demandent que les gouvernements prennent des décisions. Mais non. Nous n'avons pas affaire à un problème qui appelle des solutions. Il ne s'agit pas de prendre des mesures ou des dispositions ou des décisions ou de faire des choix. Vous voyez, toute cette logique discursive, c'est la grammaire du système. Vous ne pouvez pas renverser le système en parlant les mots de sa grammaire interne. Ça va pas. C'est une contradiction dans les termes. Je me souviens, moi j'avais, quelques jours avant Nuit Debout, j'avais écrit un papier sur le blog du Monde Diplo dont le titre était « Nous ne revendiquons rien ». Alors évidemment, ça avait froissé tous mes amis syndicalistes pour qui la revendication est la forme même de l'action syndicale, et on peut les comprendre. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'était pas les prendre à repousse-poil, je voulais dire autre chose. Je voulais dire que la revendication est une demande interne à un monde. Et que lorsque on a posé comme mot d'ordre en finir avec la loi El Khomri et son monde, par décalque du slogan de Notre-Dame-des-Landes, en finir avec l'aéroport et son monde, il s'agit bien de changer de monde, et on ne peut pas changer de monde avec le discours interne au monde, et avec les catégories internes au monde. C'est illogique. Vous comprenez? C'est une absurdité. Donc c'est pas la peine de demander des mesures, c'est autre chose. Je veux dire, notre affaire est d'une autre nature. De quelle nature elle est? Bon, ça paraît tout de suite un saut dans l'outrance. C'est d'une nature révolutionnaire. Changer de forme de vie, en ce sens, c'est changer radicalement la forme de l'ordre social. Toutes ces revendications, injonctions à prendre des décisions, etc., sont adressées à l'État. Elles sont adressées à des gouvernements. Mais enfin, n'est-il pas assez clair que ces États et ces gouvernements sont une partie du problème, sont une partie du désastre, et qu'en aucun cas ils ne sauraient nous en tirer? Voilà, donc vous voyez, il faut... C'est là qu'il faudrait la puissance de la littérature. C'est pour nous faire sentir que... C'est pour nous donner à entendre un discours qui fasse complètement dérailler le discours contemporain, ce discours-là, qui ne mène à rien. Alors, maintenant, si vous voulez... Extinction Rébellion, enfin Samedi à Italie 2, c'était extrêmement enthousiasmant. Bon, alors d'abord, ils ont une puissance organisationnelle qui laisse baba, hein, je veux dire, il faut le dire. Il y a la polémique, c'est vrai que, je sais pas, j'imagine des cabanes de gilets jaunes au Châtelet, je crois qu'en trois quarts d'heure, c'est torché. Hein. Bon, là, il y a quand même un truc. Bon. Mais peu importe. D'abord, il vaut mieux qu'il se passe quelque chose plutôt que rien. Donc ça déjà, c'est un point d'acquis. Et puis ensuite, ce qui se passe au Châtelet, à mon avis, c'est difficile d'y faire justice d'une phrase lapidaire. Parce qu'il se passe plein de choses différentes. Il y a des Extinction Rébellion, il y a du qui espace méthodiquement un graphe... alors moi, j'ai antifique ou je sais pas quoi. Bon, alors j'ai vu par terre... ACAB, all the cabans are beautiful. Bon, alors, pareil, de nouveau ramasser ses bras. Hein, voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, et c'est ça qui est bien, ça se mélange, il se passe des trucs, et surtout, moi, ce sur quoi je compte, alors si on prend un tout petit peu de recul stratégique, c'est que ça accélère des déplacements. Bon, vous voyez, la plupart des gens, des jeunes gens, hein, essentiellement, qui sont dans l'extinction rébellion, livrent pour motif de leur investissement dans ce mouvement qu'ils ont fait longtemps des marches climat, puis ils se sont aperçus que ça ne servait à rien, et qu'il fallait passer la seconde. Bon, je veux dire, en seconde, on ne dépasse pas les 30-40 km/h, hein. Je veux dire, c'est mieux que marcher au pas, mais c'est déjà ça, je veux dire, c'est déjà ça. Donc, moi, je pense qu'ils mettront moins de temps pour passer la troisième qu'ils en ont mis pour passer la seconde. Et bon, on part de très très loin, alors, tant mieux, voilà, tant mieux. Donc, je ne peux pas, vous voyez, moi, la seule chose que je puisse dire, c'est celle-là. Et en gros, c'est aussi à ça que ça sert, vous savez, tout le chapitre sur la révolution culturelle. Moi, je veux mettre les gens, et en particulier ces gens, dans un corner. Je veux les mettre dans un corner et qu'il n'y ait plus qu'une seule voie de sortie. Conséquente. C'est-à-dire, le corner, c'est celui que j'ai énoncé tout à l'heure. Forme de vie, désastre, capitalisme, renverser le capitalisme. C'est ça les coordonnées de l'affaire. C'est ça les coordonnées de la situation. Maintenant, vous avez ça sous le nez, démerdez-vous. Et puis, tâchez de faire quelque chose de logique avec. Quelque chose qui ne soit pas à moitié cuit, ou à trois quarts baigné, ou des trucs comme ça. Voilà. Alors, mais bon, le déni est une force très très puissante dans les psychismes humains. Il faut du temps pour la vaincre. Alors, par exemple, il y a des gens qui sont restés longtemps dans le déni que faire République Nation, c'était inutile. Enfin, ça commence à changer depuis quelques années. Voilà, c'est ça la politique, c'est une affaire de différence au sens du mouvement de différer, du mouvement de se déplacer. Bon, peut-être quelque chose est quand même en train de se passer là, quoi.